BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h pile, vous êtes sur BFM Business, c'est les experts. On est encore ensemble pour une demi-heure de débat et de controverses sur les sujets d'actualité économique du jour. Des sujets légers, me disait Mathieu Plane, effectivement. Bon, on a eu la canicule, on a eu les retraites, on va parler énergie et on va parler logement dorénavant. C'est les sujets de la présidentielle et justement, hier, 9 candidats ou représentants des candidats à la présidentielle étaient réunis à l'UFE, qui est un peu le lobby des énergéticiens, électriciens, l'Union française des énergéticiens, pour parler prix de l'énergie, évidemment, des candidats qui promettent tous des baisses d'énergie, promis, chacun sa baisse de taxes, chacun j'arrête ci, j'arrête ça, je sors du circuit européen. Bref, ils ont présenté leur politique énergétique à ce colloque. Alors, vous n'avez peut-être pas passé votre soirée devant le site de l'UFE les uns et les autres, mais vous avez dû voir les comptes rendus qui ont pu être faits aujourd'hui dans la presse. D'abord, cette idée quand même importante de la sortie du marché européen, et je commence avec vous, Gilles Raveau. C'est notamment le Rassemblement National qui propose cette sortie du marché européen. Alors Jean-Philippe Tanguy, qui porte ce sujet au sein du RN, dit « Non, mais il n'est pas question de couper les câbles, c'est juste qu'on veut redéfinir le design du marché européen. » Bon, Marine Le Pen, elle dit « On sort hein. ». Quand même très clair et net. Avec des baisses de taxes et en même temps, on coupe les subventions. C'est une bonne idée, ça ou pas ?
Moi, je suis pour la sortie du marché européen d'électricité.
Ah.
Parce qu'effectivement, il y avait des échanges internationaux avant ce marché qui, en gros, date de 2009.
Oui.
Il y a toujours eu des interconnexions. Et un des trucs qu'on a le plus raté, mais encore une fois, c'est tellement facile d'arriver une fois que l'accident a eu lieu, c'est que nous, on a un avantage comparatif, qui est même un avantage absolu au sens d'Adam Smith, qui est le faible coût de production de l'électricité grâce au nucléaire.
Et ce que je pense... Pour l'instant.
Oui,
pour... Parce qu'on a amorti nos centrales, mais on doit en construire des nouvelles, Gilles Raveau.
Oui, tout à fait. Mais
100 milliards d'investissements.
Tout à fait. Mais là aussi, je rappelle d'ailleurs... J'avais un peu bossé le sujet, que contrairement à ce qui est souvent cru, les centrales ont été entièrement financées par nos abonnements à EDF. Il n'y a pas eu un euro ou un franc à l'époque de financement public, ça n'est pas vrai. Les centrales ont été financées par les clients d'EDF. Et oui, c'est EDF qui a tout financé. Donc, c'est quand même une réussite extraordinaire. Et quand vous réfléchissez bien, c'est un avantage macroéconomique. C'est-à-dire qu'un faible coût de l'énergie, c'est un avantage compétitif pour les entreprises. Ça soutient le niveau de vie des ménages et... Ce qu'on aurait dû faire, et donc je pense qu'on n'aurait jamais dû rentrer dans ce marché européen d'électricité, c'est vous la vendez plus cher à l'étranger. C'est-à-dire que, de même que, par exemple, pour prendre mon cher exemple, les Polonais, ils ont un coût du travail plus faible que nous, et donc ils vendent leurs produits, leurs machines à laver, voilà, au prix qu'ils veulent, parce qu'ils sont moins chers. Et donc je pense qu'effectivement, on devrait retrouver cette souveraineté électrique et refaire de l'électricité quelque chose qui rapporte de l'argent aux entreprises, aux ménages et à l'État français.
Alors, ce que certains vous répondront, Gilles Raveau, c'est que, un, on paye l'électricité moins cher en France qu'ailleurs en Europe. Deux, qu'on a fait 5 milliards d'excédents l'année dernière parce qu'on a exporté beaucoup d'énergie électrique. Et que trois, quand nos centrales étaient toutes en révision en 2023-2024, on aurait eu 3 semaines de blackout si on était uniquement sur notre marché national. Mais le débat est intéressant. Mathieu Plane, quelle est votre position ?
Moi, je suis plus modéré là-dessus. Bon, d'abord, c'est un sujet très technique.
Oui.
En réalité, ouais. Voilà. Donc, on passe des retraites à l'énergie. on va parler logement. Voilà, il y a des gens qui sont très experts là-dessus. Oui. C'est vrai que cette interconnexion européenne a des faiblesses que Gilles a souligné. Elle a aussi des atouts. C'est qu'effectivement. Elle permet de redistribuer les excédents d'électricité quand il y a des déficits, ce qui est quand même un point important. Qui pose des problèmes, c'est que quand vous avez un choc très négatif, comme on a eu en 2022-23, effectivement, on payait au coût marginal le prix de l'électricité, et que quand le prix du gaz est à 340 euros le mégawattheure, et que c'est le prix marginal qui fait le prix de l'électricité, on a explosé la facture. Et personne n'a rien compris à ça, en se disant comment ça se fait. Alors, on était sur un déficit, on avait, ce qui est assez rare, c'est que, pas de chance.
On avait plus de la moitié des réacteurs qui étaient sous révision.
Il y a effectivement des corrosions, sur les nucléaires. Donc, notre parc était vraiment extrêmement réduit. Donc, on a dû importer l'électricité à des coûts pharaoniques. Bon, là, aujourd'hui,
c'est
on a
retrouvé... C'est en fait une conséquence indirecte du Covid, en fait, parce que les maintenances ont pris du retard à cause du Covid.
Oui, c'est ça.
C'est ça, en fait.
Oui. Et puis, ils ont trouvé des corrosions aussi qui n'étaient pas prévues. Enfin, bon, il y a eu pas mal d'éléments. Bon, là, on a retrouvé des capacités nucléaires.
Et donc là, le marché européen et donc est là, un comme, peu sain de sécurité.
Voilà,
et en cas de pépin, même si le Covid n'arrive pas
on exporte,
plus tous les 5
ans. Voilà, c'est quoi, c'était 5 milliards. Je crois que c'est l'équivalent.
L'année dernière.
On a exporté l'équivalent de la consommation d'électricité de la Belgique. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Bon, ça, c'est vrai qu'on est plutôt content qu'on a une balance commerciale excédentaire, mais quand on regarde par rapport aux US, par exemple, on reste quand même avec des prix qui sont bien supérieurs.
Deux fois supérieurs.
Donc, je pense que c'est un enjeu majeur pour plusieurs raisons. C'est qu'on a besoin, on va vers une société d'électrification. Quand on regarde, par exemple, le plan pour 2035, aujourd'hui, dans le mix énergétique, la consommation finale, c'est 60% du fossile encore. On doit passer à 30%.
On divise par deux. Absolument.
Et donc, ça veut dire que c'est une montée très rapide de la question électrique. Et donc, c'est... Est-ce qu'on le fait seul
on n'a pas fini d'en parler.
Ou est-ce qu'on le fait avec nos partenaires européens, sachant qu'on a à peu près des engagements similaires. Donc, il faut développer ses capacités. Et c'est vrai que d'avoir des grands réseaux, alors sauf s'il y a des gros problèmes, ça permet effectivement de rebasculer les excédents quand d'autres sont déficitaires à des moments un peu difficiles. Après, il y a aussi cette question des investissements. Mais j'allais dire, voilà, aujourd'hui, les choses vraiment qui vont structurer la société, c'est ces questions de transition, c'est ces questions d'énergie. On voit que quand Choose France... SoftBank décide de mettre 50 milliards, ils disent pourquoi ils vont faire des data centers en France, parce que on a beaucoup d'énergie, d'énergie décarbonée.
Et d'énergie verte.
Donc ça va devenir notre principal avantage compétitif, j'allais dire presque.
En tout cas, on devient la pompe à essence, quoi, du.
Oui, mais sauf qu'on n'a pas de pétrole, donc c'est le moment d'aller pleine balle là-dessus.
Mais c'est aussi notre situation géographique. Par contre, juste pour revenir sur ce que vous avez dit,
il
faut être très clair, il n'y a aucun débat non plus là-dessus. Le coût de l'énergie, au moins dans un premier temps, mais qui va durer quelques décennies, va augmenter.
Oui. Donc pour revenir, je pense qu'il faut prévenir tous ceux qui nous écoutent, effectivement, qu'on a bénéficié d'un prix extrêmement bas.
Il
faut se rappeler, on a bénéficié d'un bouclier énergétique. On a dépensé par dizaines de milliards d'euros
70.
En 2022-2023 pour protéger les Français. En Angleterre, c'était le choix entre to heat, se chauffer, et to eat, manger. On n'a pas connu ça en France, mais on l'oublie aussi... très très rapidement, mais il faut le dire, et qu'effectivement, beaucoup d'investissements vont être nécessaires.
Voilà.
Et du coup, l'électricité va augmenter, on est d'accord.
Exactement. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus.
Bon.
Après, pour ramener plus à l'actualité chaude, ce qu'on peut quand même se partager, c'est qu'avec la réouverture passagère, en tout cas du détroit d'Hormuz, on a une vraie détente sur les prix du pétrole. On ne revient pas complètement au niveau de ce qu'on était en fin d'année dernière.
On est à quoi, 76 là ce matin, aux alentours de 76 dollars le baril de Brent.
Donc du coup, ça pourrait détendre la pression, au moins à court terme par rapport à ce dernier choc de prix de l'énergie. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un vrai besoin d'investissement à long terme sur l'électricité. Et je pense que le marché européen reste quand même le bon marché pour adresser ces sujets d'électricité, même si on a un avantage compétitif au sein de l'Europe sur lequel il y a un vrai atout pour rejoindre le premier sujet de la France en Europe. Il faut quand même continuer là-dedans au niveau européen et ça nous permettra à la fois de nous démarquer en Europe et de nous démarquer sur le plan international.
Est-ce que vous faites partie de ceux qui voient le prix du baril s'effondrer avec la réouverture du détroit d'Hormuz, Clémentine Gallès?
S'effondrer, j'irai pas me prononcer jusque-là, mais c'est...
Non, mais on parle parfois de 50, 40 dollars le baril.
On était dans un marché très détendu quand même. En fin d'année dernière, on était autour de 60 dollars.
En janvier, on était à 60 dollars, effectivement.
Si on le ramène, avec qu'on corrigeait des effets d'inflation cumulés de ces dernières années et de l'efficacité énergétique de la consommation de pétrole, ça voudrait dire qu'on a un prix qui est nettement plus bas que ce qu'on a connu sur l'histoire récente. Parce que l'offre est abondante. Hormis le choc du blocage du détroit d'Hormuz, l'offre est abondante, notamment aux États-Unis.
La demande baisse du fait aussi de l'électrification.
Exactement.
Et des Chinois aussi.
Chinois, effectivement.
Ils peuvent substituer, avec le charbon notamment.
Ils ont eu la capacité d'amortir le choc de blocage du détroit d'Hormuz en mobilité.
Il va falloir reconstituer les stocks aussi à un moment, parce qu'on a beaucoup consommé.
300 millions de barils, constitués. Il y a quand même le fait que Mathieu l'accord Plane. Doit... être signé en 60 jours.
Ça
avait pris juste 13 ans de le négocier sur le nucléaire iranien. Donc, est-ce qu'il y a un péage ou pas un péage? Il y a quand même un certain nombre, il y a le déminage.
Quelques interrogations qui
demeurent. Oui, donc moi, il reste quand même pas mal d'incertitudes. Juste peut-être pour revenir sur l'histoire du nucléaire, il y a quand même, et Gilles en parlait au début, là, sur la question européenne, c'est que l'Allemagne n'a pas supporté qu'on soit une puissance nucléaire en termes énergétiques, pas
nous
en termes militaires.
Nous a mis beaucoup de bâtons dans les roues, effectivement,
surtout quand ils ont fait le choix, eux, d'en sortir.
Oui.
Et donc, nous, on s'est adapté parce qu'on avait un gain de compétitivité qui est tel qu'on a dû négocier, justement, un accord assez particulier pour vendre notre électricité à un coût de prix, effectivement, sur lequel on ne faisait pas de marge, voire extrêmement favorable pour
l'Allemagne. Et donc, qui reconnaît qu'elle a fait une erreur de sortir du nucléaire.
C'est là où on n'a pas su défendre nos intérêts. on n'a pas su défendre nos intérêts.
Un peu comme toujours.
Un peu comme toujours. Donc je crois que c'est voilà. Ça a été une erreur, à mon avis, assez importante.
La photo, quand même, d'Angela Merkel avec la fausse valve, avec, je crois, c'est François Fillon à l'époque, et quand elle célèbre.
C'est
une photo incroyable quand ils ont ouvert le nouveau gazoduc, et vous avez Angela Merkel, je crois qu'il y a Poutine. Et je crois que le premier ministre français de l'époque, et tout le monde est hilar, ils ont une grosse valve et tout ça, et c'était génial.
Oui.
Pour l'inauguration du gazoduc.
Bien planté, les amis allemands, ils nous ont amenés avec eux dans leur chute. Oui. Juste pour revenir sur le pétrole.
Attends, plus tard, on en
là
a
aussi,
payé
pour
le
rappeler quelques faits, même si je sais que c'est impossible à entendre pour les gens, effectivement, c'est quand même, déjà, on peut quand même noter, moi j'aimerais quand même qu'on célèbre quand même les bonnes nouvelles, c'est quand même les stocks stratégiques. Oui. C'est-à-dire qu'on a quand même eu.
Qui ont très bien fonctionné pour le coup.
Voilà. Donc, pour une fois, nos États nous ont protégés. Anticipé.
Non, c'est vrai qu'on parle toujours des trains qui arrivent en retard. Là, pour le coup, bon, les
stratégiques. Bravo les gens qui ont pensé à ces stocks, etc. Et d'ailleurs,
il n'y a pas eu de pénurie. Les prix se sont envolés, mais il n'y a pas eu de pénurie.
Et en fait, pour revenir avec les questions de géopolitique, pourquoi ces stocks existent? C'est qu'en fait, c'est l'héritage de la guerre. C'est-à-dire qu'en fait, ces stocks, pourquoi est-ce qu'ils existent dans tous les pays? C'est pour mettre de l'essence dans les tanks et dans les camions pour faire la guerre. C'est-à-dire que c'est quand même l'héritage de quelque chose. On re-rentre dans un monde de guerre, voilà.
Oui.
Et c'est bien, en fait, des fois, d'anticiper vraiment la guerre plutôt que cuit-cuit les petits oiseaux et vivre le libre-échange. Je referme la parenthèse. Le pétrole, le prix réel du pétrole par rapport au niveau de vie s'effondre depuis les années 70. Et là, c'est quand même sidérant de voir qu'effectivement, on est déjà redescendu à moins de 80 dollars le baril, pardon. Et effectivement, je fais partie, je suis expert.
Et même qu'on n'est jamais monté à plus de 115 dollars le baril, alors que le détroit d'Hormuz était fermé, c'était l'apocalypse chez les prévisionnistes. Exactement. On était sur du 150 et à 250 dollars le baril.
Le président de l'Agence internationale de l'énergie a dit que c'était le plus grave choc pétrolier de l'histoire depuis 73, ce qui était un peu surprenant quand même.
Exactement.
Et on est assez doumiche en général.
Et on anticipait à 200 dollars. Moi, je suis un expert de rien, c'est pour ça que je viens dans cette émission. Mais on a quand même.
La Clémentine pour ça.
Et aussi, j'ai une voiture thermique parce que j'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique alors qu'elles sont trop belles, les nouvelles voitures électriques. Je rêve de m'acheter la R5 électrique. Donc, si Renault m'écoute, voilà.
Le message est passé.
Qu'ils n'hésitent pas à me faire une petite réduc. Mais je pense aussi, avec ce qui se passe au Venezuela, avec l'augmentation de la production. Mince, ça m'échappe. Le pays là, qui a quitté l'OPEP, justement pour accroître sa production récemment, là, pendant la crise. Enfin bon, bref. Les tendances à long terme, effectivement, il y a d'un côté un retour de l'offre. Le Venezuela, c'est la plus grande réserve mondiale de pétrole du monde.
Oui.
Et donc là,
mais de mauvais pétrole, de mauvaise qualité.
Non, mais d'accord, mais je veux dire, en tendance, si ça dure.
Mais
non, effectivement,
oui,
et la baisse de la demande, voilà, on peut anticiper.
Le peak oil n'est pas atteint. Ça,
non, mais on peut anticiper une vraie forte baisse structurelle du prix du pétrole, ce qui est d'ailleurs pas du tout une bonne nouvelle pour la planète, etc.
Bah non, en tout cas, pour le pouvoir d'achat. Parce que le signal prix est quand même ce qu'il y a de plus efficace pour changer les comportements, et qu'on a vu l'effondrement, la consommation des carburants pendant la crise au Moyen-Orient, et l'explosion des ventes de véhicules, de voitures électriques.
Et il y a jamais.
Écoutez Gilles Ravoux.
Non mais là, ça, moi j'adore ce truc-là depuis toujours, le pétrole, parce que ça va jamais. Donc moi j'adore quand ça va pas, parce que si le prix du pétrole est trop élevé, c'est la crise du pouvoir d'achat, et s'il est trop bas, c'est mauvais pour la planète. Donc de toute façon, ça va jamais.
Donc quoi qu'il se passe,
voilà.
Voilà, une vision optimiste de l'avenir. On va parler logement dorénavant. Là aussi, on va parler choc, quatre chocs. C'est ce que promet Vincent Jeanbrun, le ministre du logement, qui présente aujourd'hui. Un projet de loi sur lequel il a beaucoup travaillé depuis 9 mois et qui devrait être examiné à l'Assemblée nationale à la rentrée le plus tôt possible, nous dit-on, du côté du gouvernement. Qu'est-ce qui contient ce projet de loi, Clémentine Gallès?
Peut-être avant de parler du projet, je trouve que c'est quand même intéressant de rappeler la conjoncture du secteur du logement et de la construction qui reste vraiment freinée depuis le Covid et qui est plus connecté à des taux d'intérêt plus élevés et qui pèsent globalement sur l'activité. Et c'est assez atypique, même avec la reprise qu'on a eue en 2022-2023. Voilà, on a gardé cette pression plutôt baissière en termes d'activité sur le secteur globalement.
Ouais.
Pour moi, c'est à connecter vraiment avec la dynamique des taux d'intérêt qui globalement ont été plus élevés du fait de plus d'inflation et puis du fait de la pression spécifique sur les finances publiques françaises. Alors aujourd'hui, il me semble que les taux d'intérêt sont quand même en train de se stabiliser et pourraient permettre un certain redémarrage du secteur,
oui.
Mais ce qui pourrait aussi être boosté par des changements de politique.
qui est toujours difficile dans le neuf. On a Miss Immobilier BFM Business qui nous rejoint sur le plateau. Salut Marie.
Ah non.
Viens aussi, évidemment. Mais dès qu'on parle immobilier, on ne peut pas parler immobilier sans que Marie Cœur de Roi, blim, apparaisse sur le plateau.
Non, mais c'était un effet de circonstance. J'étais en régie, j'ai entendu le sujet.
Ça me fait plaisir d'accueillir Marie Cœur de Roi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi? Est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va dans le bon sens?
Il y a des éléments qui vont dans le bon sens pour relancer l'investissement locatif. Par exemple, le fameux dispositif Jeanbrun du nom du ministre. Oui, il va dans le bon sens parce qu'il est amélioré par rapport à sa version initiale, notamment pour l'ancien. Parce que je rappelle, au démarrage, son dispositif, pour faire ce dispositif Jeanbrun dans l'ancien, il fallait qu'il y ait 30% du prix du bien qui soit consacré à des travaux. Oui. Et surtout qu'on atteigne la note A ou B, ce qui est techniquement quasi impossible, sauf si c'est du logement neuf. Donc là, on abaisse un petit peu ces curseurs-là. On va descendre à la note D minimale. Donc c'est difficile.
On rejoint le plancher du réel. Voilà. On sort
voilà,
un peu du dogmatisme.
Exactement. Il y a 20% de travaux. Maintenant, après, il manque énormément de chance. Et puis le concours de circonstances par rapport à la canicule. Moi, je voulais juste rappeler un truc. Il y a un an tout pile, on a des députés, une cinquantaine de députés qui ont déposé une proposition de loi contre les bouilloires thermiques.
Oui.
Et bah depuis, elle est restée lettre morte. Voilà. Et donc c'est ça qui manque dans ce texte. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'on a eu un brief hier de ce texte du ministre Jeanbrun et il disait qu'effectivement, ils allaient pas pouvoir faire l'impasse et qu'il allait avoir tout un tas d'amendements qui vont être déposés dans le cadre de ce texte-là. Et c'est là que ça va devenir véritablement intéressant. Mais pour le reste, c'est des petites mesurettes. Hein. On va pas se mentir. C'est pas ça qui va régler la crise du logement en France. D'autant qu'en plus, concours de circonstances, ce texte, il fait quoi aussi? Il donne un sursis supplémentaire pour les propriétaires bailleurs pour rénover les passoires thermiques. Donc, on va laisser 50 plus dans les appartements loués.
Ils sont souvent les mêmes, non?
Mais non, parce que parfois, vous faites les travaux pour lutter contre l'état de passoires thermiques et vous créez des bouilloires thermiques, figurez-vous, Raphaël. C'est quand même génial, parce qu'effectivement, on ne communique pas assez. Puis le gouvernement sous-subventionne aujourd'hui l'isolation, ce qui est l'alpha et l'oméga, pour bien réchauffer, pour bien refroidir si vous voulez mettre la clim, par exemple.
Bah oui, sauf que le gouvernement est à l'os, n'a plus un rond. Mathieu Plane, vous suivez ça de manière très
confirme
belle,
donc c'est toujours pareil. Hein. d'un point de vue macro, c'est un vrai sujet.
Ou des normes en moins. C'est un peu ça.
Non, mais en fait, vous avez des chocs d'offres et de demandes qui vont dans le mauvais sens. De toute façon, on a vu le choc de demande avec la hausse des taux, les effets sur le pouvoir d'achat. En gros, sur l'investissement, prenez l'investissement neuf, vous en avez perdu quasiment un point de PIB. C'est pas rien, un point de PIB, hein, sur quelque chose qui représente entre 5 et 6% du PIB. Donc, ouais, c'est massif.
30 milliards, bah oui.
Voilà, vous avez des emplois derrière. Et puis, vous avez les problèmes d'offres qui sont soulignés. C'est-à-dire qu'avec ces transformations, ces passoires thermiques, la sortie des F ou des G, la zéro artificialisation nette des sols aussi, qui est encore un débat qui va revenir parce qu'elle permet aussi, c'est quand même aussi dans les questions de réchauffement climatique et d'adaptation, le problème c'est qu'on ne peut plus construire, mais si vous artificialisez trop, vous avez
pas
de réchauffement, ça réchauffe la ville.
Bah, c'est pas complètement faux, faut juste construire en hauteur. Hein.
Voilà, il faut construire en hauteur. Voilà, mais
sur élévation.
Il faut qu'il y ait une acceptation sociale aussi. Enfin bon, vous voyez, c'est des projets qui se font sur le temps. Et moi, j'ai l'impression qu'on a une loi sur le logement chaque année avec des objectifs qui sont donnés. On va faire 600, 700 000 logements.
Et un choc.
Comme on a des chocs de
logement.
On a des chocs de logement, on a des chocs de compétitivité, on a des chocs de simplification. En fait, on est habitué à chaque fois. Mais c'est un sujet majeur.
Il y a des mots-clés comme ça qui sont assez casse-misère. Si vous entendez plus c'est flashy, c'est moins réactif.
Quand même important. Alors moi, je pense qu'on n'a pas un sujet logement, on a des sujets logements. On voit bien que les choses sont très différentes selon les zones d'habitation, les agglomérations. Voilà, il y a toute cette réflexion à avoir. Mais clairement, il faut rappeler que c'est quand même le premier poste de dépense des ménages. Et qu'en plus, ça peut être très inégalitaire. Et que c'est d'autant plus inégalitaire maintenant qu'on a ces questions aussi climatiques. C'est-à-dire que les questions de passoires hiver ou de bouilloire sont quand même des problèmes importants. Et donc, la question de l'énergie, dont on parlait tout à l'heure, est quand même assez liée.
Bon, j'ai l'impression que pas grand monde autour de la table ne croit en ce projet de loi. Gilles, est-ce qu'on remonte le logement d'ici 2027 avec ce nouveau texte?
Ben non.
Encore une fois, réponse technocratique à une crise bien pragmatique.
Moi, j'avais été... j'espère que Marie ne va pas m'étrangler, ou en tout cas peut-être...
J'attendrai.
Mais toujours avec tendresse.
Peut-être attendre la fin de l'émission. Moi, j'avais été vraiment choqué par l'histoire, effectivement, des passoires thermiques sorties du marché. C'est-à-dire que là, pour le coup, je trouve qu'il faut laisser faire le marché. C'est-à-dire que si, même rien ne va, si on avait des diagnostics qui tiennent la route, ce qui n'est pas le cas.
Et donc,
comment est-ce qu'on peut avoir... Alors là, je mets ma casquette de gauchiste. Comment est-ce qu'on peut avoir des diagnostics qui tiennent la route avec un service public du logement, avec des gens assermentés, et qui vont partout et qui font un travail comme l'inspecteur du travail, l'inspecteur des impôts. C'est-à-dire, c'est des gens, s'ils font des conneries, ils le payent très cher. Alors que là, on a des gens qui se gavent, qui arnaquent des pauvres ménages et qui, en fait, disparaissent avec la caisse. Enfin, c'est de la folie.
Et vous êtes pour un service public d'évaluation.
Oui, exactement, de certification. Si on avait
l'isolation des bâtiments.
Et ensuite, effectivement, on a un vrai diagnostic énergétique sur les logements. Je vois aucune raison de sortir du marché. C'est-à-dire que, malheureusement, pour dire les choses, vous êtes aide-soignante, vous avez un salaire extrêmement faible, et ben vous allez vivre dans un logement horrible, mais au moins vous avez un logement. Et oui, on peut espérer qu'avec le marché, le loyer soit plus bas.
Mieux que rien, je vois Marie.
Mais c'est pas entendable. Mieux vaut dormir sous un toit dégueulasse que dormir sous les ponts, c'est ça l'idée. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des gens qui dorment dans les parcs, tellement il vaut mieux pas dormir sous un toit dégueulasse que sous les ponts. Donc à un moment donné, il faut poser la question de savoir si effectivement il faut pas aider. C'est la dépense publique. Mais parallèlement à ça, on a ce que rapporte le logement en France. Et à chaque fois, je salue la patronne de Next City qui l'avait très bien dit. Sortons de nos fichiers Excel. Il y a la dépense et il y a les recettes. Le logement au sens large, ça rapporte plus que ça ne coûte. Deux fois plus
Véronique
que
Bédague.
Ça ne coûte. Ben, bien sûr. Et donc, à un moment donné, il va falloir savoir, fin du mois, fin du monde. Moi, je suis désolée, mais en tant que locataire et les auditeurs, téléspectateurs de BFM Business le savent,
on commence à le savoir.
Je n'accepte plus cet argument de dire c'est quand même mieux que rien. Pourquoi on n'aide pas les propriétaires bailleurs? Je ne jette pas la pierre aux propriétaires bailleurs. J'en ai besoin pour vivre. Maintenant, la question, c'est comment je les aide pour pouvoir créer des logements décents, pas ultra vertueux. On a bien conscience que ça ne sera pas possible tout de suite, mais au moins décents. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je trouve que l'argument de dire laissons faire le marché là-dessus, c'est compliqué quand on a des locataires qui aujourd'hui s'en sortent plus. Vous regardez en face de chez vous, tous les habitants de Paris, là, en ce moment, c'est un truc de dingue. Enfin, il va falloir regarder ce qui se passe chez nous.
C'est vrai, excusez-moi, c'est très intéressant ce que vous dites et je suis ravi de vous avoir invité dans mon émission. Mais, non, mais le problème, c'est que ce que tu dis, c'est valable. Moi, là où j'enseigne, d'accord, il y a un diplôme sur la culture. Et c'est pareil. Moi, j'ai des collègues enseignantes qui disent, regardez, les festivals, ça rapporte trois fois plus que ça coûte. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de municipalités qui ont annulé des festivals pour l'année prochaine parce qu'elles ne peuvent plus payer. Oui. Et ce que tu dis, c'est vrai pour la santé, c'est vrai pour l'éducation. Et on ne peut pas.
Non, mais c'est vrai sur tous les sujets qu'on a évoqués ce soir. C'est vrai pour la clim, dans les écoles, dans les hôpitaux.
Ouais, mais sauf que la différence, c'est que le logement, c'est une priorité, encore une fois. Première
priorité.
Mais du logement dépend aussi l'éducation de nos enfants, leur capacité à se loger dans des habitats dignes, avoir leur chambre, avoir un bureau, le vivre ensemble, l'énergie, vous en avez parlé, c'est le logement. Le logement, c'est tout. C'est l'acceptation des autres, les crises sociales, les crises sociétales. Encore une fois, s'il y a bien un poste sur lequel il faut dépenser.
Mais non,
mais c'est pas possible.
Marie Cœur de Roanne réchauffe l'ambiance sur le plateau. Heureusement qu'il y a de la clim pour calmer tout ça. Je ne sais plus quoi vous poser. Tu nous perds, Marie.
Bah oui,
je suis désolée.
Merci de ton enthousiasme.
Après, pour retrouver
Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de décentralisation dans ce qu'on dit aussi?
Pour retrouver le fil conducteur de l'émission, il y a un problème d'intervention de la politique publique dans une situation où les finances publiques sont contraintes. Et donc, à ce moment-là, on a peut-être plutôt intérêt à mettre en place des incitations plutôt que des normes qui interdisent l'accès à tel logement ou des besoins de subventions et d'investissements que l'État ne peut, auxquels l'État ne peut
pas faire face. Parce que ce n'est pas ça la crise du logement aussi, c'est un excès de fiscalité, un excès de normes.
Oui, mais sur la décentralisation...
Le logement est considéré comme une rente depuis...
La décentralisation, c'est hyper intéressant. Justement, on nous expliquait qu'avant, le moins de permis de construire, avant la décentralisation, ça remontait au préfet, c'était dingue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Bretagne, par exemple, qui est une région où je vais de temps en temps?
Oui.
Il y a des maires qui ne construisent plus, parce que sinon... Non, mais ça, c'est hyper intéressant.
Maire bâtisseur, maire battu, c'est connu, Gilles Raveau.
Eh ben oui.
Les gens ne veulent plus de nouveaux bâtiments.
Et donc, non, mais ça, c'est quand même très compliqué là aussi, parce que, en termes de philosophie politique, il y a un argument très fort sur la décentralisation, c'est plus de démocratie. Mais qu'est-ce que se passe plus de démocratie? Et je vais encore retaper sur nos cerfs aînés, comme dit Emmanuel Macron, c'est que nous avons plein d'endroits où il y a des retraités qui vivent très bien, qui ont leur résidence principale, qui éventuellement ont leur résidence secondaire où ils viennent deux semaines par an, et qui refusent qu'on construise des logements pour les gens qui littéralement les servent et qui travaillent. Et on a plein d'exemples comme ça. Qu'est-ce que vous faites?
NIMBY.
Non, mais qu'est-ce que vous faites face à ça?
Not in my backyard.
Qu'est-ce que vous faites face à ça? Voilà.
Donc c'est répondre aux besoins de la population avec un peu de courage politique.
Oui, ou alors on fait comme pour le logement social, on demande au préfet de se substituer au maire.
Et c'est ça.
Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait, un politique, qui me disait qu'en fait, il était à la commission SRU, et qui disait qu'il y avait pas mal de maires qui appelaient en disant « Allez, viens faire une opération coup de poing pour signer le permis de construire à ma place. Comme ça, moi, je sais que je vais faire quelque chose de bien pour l'intérêt général, mais politiquement, c'est pas sensible pour mon électorat. » C'est quand même intéressant de dire ça. Oui, il faut de la décentralisation, mais à un moment donné, c'est compliqué pour les maires. Puis il y a ceux qui qui ne construisent pas. Et on comprend pourquoi. Et puis, il y en a d'autres qui se vantent carrément de ne pas construire. Vous avez des mairies, je ne citerai pas des mairies, qui carrément se font élire sur la promesse de ne pas construire. On a vu dans des magazines municipaux des maires qui disaient c'est tant de permis de construire pas signés, tant de logements qui sortiront pas de terre. Bravo, dans des zones ultra tendues du 93. Hein. Bravo.
Je vais poser une question peut-être idiote, mais vu que les naissances baissent, est-ce qu'on ne va pas être en excès si on se met à construire de partout ?
Et il y a des endroits en France où il y a déjà un excès de logements.
C'est ça.
Bah, je veux dire, aller dans la Creuse, ou je ne sais rien, moi, mais...
Enfin, est-ce que, la démographie.
La démographie, d'abord, il y a cette question... D'abord, on a un pays qui n'est pas complètement homogène, hein, vous remarquerez, avec des territoires qui sont plutôt déserts et des territoires qui sont très tendus.
Oui.
Donc, c'est comment vous faites pour augmenter le foncier dans les territoires tendus ? Ce n'est pas une problématique d'en Creuse. Hein. Voilà, il y a ça. Il y a effectivement la démographie dont vous parlez, c'est-à-dire qu'on a une dénatalité qui est très forte, avec un vieillissement important. Et puis, on a le prix des actifs. On n'en parle pas, mais il y a une question patrimoniale et des transmissions.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on parle de la grande transmission.
On va pas avoir des zones où des prix vont s'effondrer donc, avec la grande transmission et les familles qui vont vouloir liquider l'héritage qui ne voudront pas garder.
Il va se passer certainement encore beaucoup de choses avec à la fois ces valeurs d'actifs, à la fois avec ce qui se passe aussi sur les marchés et notamment les taux d'intérêt, mais aussi, effectivement, comment on va se réallouer tout ce capital-là et est-ce que ce capital va rester ou pas dans les grandes villes ou est-ce qu'on va avoir une diversification. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir encore des changements importants, structurels, quelles que soient les décisions prises par les pouvoirs publics.
Mais il y a la dénatalité, mais il y a aussi de plus en plus de familles monoparentales.
Oui, c'est vrai.
Les ménages, classement des foyers. En termes de nombre de logements dont il va falloir avoir besoin, est-ce qu'on va attendre effectivement que tous les autres meurent pour la grande transmission ?
Non, mais c'est à l'horizon 10 ans, 15 ans.
Et non, il y avait une proposition de loi qui était aussi très intéressante d'une députée UDI, je crois, qui voulait filer un prêt à taux zéro pour les familles à partir du moment où ils avaient un nouvel enfant, politique familiale. Se dire, c'est parce que c'est peut-être ça le sujet, est-ce qu'on ne peut pas relancer la natalité par le logement et pas plutôt
aujourd'hui
réduire le nombre de logements parce qu'on est en dénatalité quoi.
Évidemment, il manque une pièce par famille, peut-être que c'est l'une raison de cette dénatalité. Marie, on en aurait bien une deuxième d'ailleurs. Allez,
c'est pour
merci.
Ça qu'on en fait trois. Voilà.
Merci à tous les quatre pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Marie Cœur de Roy, Gilles Raveau, Mathieu Plane et Clémentine Gallès. Tout de suite, c'est Air et Défense animé par Jean-Baptiste Thuet. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, 9h30 en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.